Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas. Les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncer, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Étienne Tabag, professeur d'économie à Marseille, et deux fois par mois, je m'attaque franco, avec vous et avec ma consoeur Laurine Melka, professeure à Tourcoing, à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine. Bref, cette émission, c'est comme les honoraires non conventionnés de certains spécialistes à Marseille, on ne s'interdit rien. Bonjour Laurine.
Bonjour Étienne. Alors encore une référence à la santé. Tu n'en as donc pas fini avec ce sujet ?
Eh bien, pas vraiment. Si on veut traiter correctement le sujet de l'économie de notre système de soins, parler des hôpitaux ne suffit pas. Il faut aussi aborder la question de la médecine libérale, car elle aussi fait régulièrement l'actualité, avec la question de la rémunération des médecins, et donc du prix de la consultation, ou encore avec les sujets délicats des déserts médicaux et de l'accès aux soins. Bref, l'organisation de la médecine en France pose de nombreuses questions.
La médecine libérale était une impasse.
Faisons tout d'abord un petit détour par l'histoire. Mais juste un petit détour, car la médecine a des siècles d'histoire. On va se contenter ici de la France au XXe et XXIe siècle.
Avec une date fondatrice qui permet de comprendre l'organisation actuelle de notre médecine. 1927.
C'est la date de la fameuse charte de la médecine libérale. Jusque-là, les médecins ont toujours été à leur compte. Mais les États, en Europe, commencent à se doter progressivement d'assurances maladie, c'est-à-dire d'organismes qui remboursent les soins de santé. Et ces organismes ont l'intention, bien évidemment, de surveiller de près ce que font les médecins, notamment ce qu'ils prescrivent, pour éviter des remboursements trop onéreux.
Et ce droit de regard ou droit de contrôle, c'est le cauchemar absolu pour des médecins qui ont toujours été très libres professionnellement.
Cauchemar qui se réalise de l'autre côté de la frontière, en Allemagne. C'est ce que nous explique Bruno Palier, chercheur au CNRS à Sciences Po. On l'avait déjà entendu sur la question du financement des hôpitaux. Eh bien, je me suis permis d'allonger l'interview pour également évoquer la médecine libérale.
Et en fait, les médecins français vont se mobiliser pour éviter de se retrouver dans la situation des médecins allemands, à savoir de se retrouver embauchés par des caisses d'assurance maladie et donc en situation de salarié dépendant du bon vouloir et des orientations définies par les caisses d'assurance maladie. Et pour ce faire, ils vont réunifier leurs syndicats qui étaient assez divisés comme ils le sont aujourd'hui, et ils vont engager l'élaboration d'une charte, ce qu'on appelle la charte de la médecine libérale, qui sera adoptée en 1927. Et cette charte, elle définit un certain nombre de préceptes de comportement professionnel, à savoir la garantie du secret médical vis-à-vis du patient, à savoir la tarification en fonction de l'acte effectué, le libre choix du patient, qui est le premier principe de la charte libérale, donc qui garantit au patient de pouvoir choisir librement son médecin. Derrière ces principes, qui sont autant de garanties de la qualité de la relation entre le médecin et les patients, on peut lire aussi entre les lignes la volonté d'assurer une indépendance totale vis-à-vis de ceux qui, en fait, financent le soin et donc rémunèrent les médecins, à savoir les assurances sociales, les mutuelles à l'époque. En effet, si vous dites libre choix du médecin, alors vous ne pouvez pas embaucher des médecins pour soigner vos assurés. En effet, si vous dites secret médical, alors les caisses n'ont pas à savoir ce qui se passe dans le cabinet. En effet, si vous dites fixation libre des honoraires, alors la sécurité sociale ne peut pas imposer des tarifs.
Désormais, le tarif de la consultation est fixé par l'État à la suite de négociations avec les représentants des médecins. Ce tarif est de 25 euros aujourd'hui pour une consultation sans dépassement d'honoraires, ce qui concerne 94% des généralistes en 2017.
Et c'est l'un des seuls secteurs en France qui combine liberté d'entreprendre, pour celles et ceux qui ont leur diplôme, on a donc une offre privée de soins ambulatoires, c'est la médecine libérale, et avec un prix fixé par l'État, c'est le prix de la consultation. Ce qui en fait un marché très particulier, vous allez voir.
Mais il y a d'autres façons d'organiser le système de soins d'un pays.
C'est ce qu'ont fait certains États avec un système national de santé.
Et on peut ici penser au système britannique qui, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a décidé de mettre en place le National Health Service, donc qui est un système public de santé qui garantit à tous l'accès gratuit aux médecins et l'accès gratuit aux hôpitaux. Gratuit, en tout cas, quand on en a besoin. Pourquoi gratuit ? Parce que c'est en fait l'État qui rémunère directement les médecins. Dans ce cas-là, les médecins généralistes, car il n'y a que des médecins généralistes en ville, se trouvent rémunérés par l'État en fonction du nombre de patients qui se sont inscrits auprès de lui.
Mais il n'y a pas que la Grande-Bretagne qui a opté pour un système national de santé. On peut aussi penser aux pays scandinaves, à l'Irlande, l'Italie, l'Espagne, etc.
Les économistes peuvent donc comparer les deux systèmes de santé. Le système d'assurance maladie à la française et le système national de santé à la britannique. Alors Étienne, quelles sont les performances globales du système français comparé à d'autres ?
Je comprends pas. Madame Lorigan ne devait recevoir des soins qu'à base de paracétamol, et non pas d'acide acétylsalicylique, d'acide acétylsalicylique, qui est rigoureusement contre-indiqué comme tout médecin sait. Voyons.
Écoutons la réponse de Bruno Palier.
Les performances du système français de santé sont plutôt bonnes. Par rapport aux autres systèmes étrangers, nous avons une espérance de vie qui est parmi les plus élevées du monde. Nous avons des résultats de santé, que ce soit de mortalité infantile, de morbidité, de taux de morbidité, de taux de décès liés à un certain nombre de maladies qui sont dans la moyenne haute des pays de l'OCDE. Le problème que l'on peut voir ici, c'est qu'au niveau des dépenses, nous ne sommes pas dans une bonne moyenne européenne, nous sommes parmi les pays les plus dépensiers en matière de santé. Et là, on peut s'interroger. On a des bons résultats, mais avec beaucoup d'argent dépensé, alors que des pays, d'autres pays, comme la Suède par exemple, arrivent à de meilleurs résultats que nous avec un petit peu moins de dépenses de santé. Et donc, il y a ici l'identification d'une marge de manœuvre, de progrès possible en matière de coût-efficacité, de combien on met d'argent pour les résultats obtenus, qui pourrait être réfléchi à l'aune des comparaisons avec, par exemple, la Suède, mais aussi le Japon. Le Japon consomme beaucoup moins que nous en matière de santé et obtient de très meilleurs résultats de santé que nous.
Donc, on soigne plutôt bien en France, mais à des coûts élevés.
Et c'est notamment dû à la spécificité de notre médecine libérale, le paiement à l'acte. Le médecin n'est payé que si son patient vient le voir, ce qui induit un certain nombre de biais.
Il y a une sorte de pression d'un consommateur, d'un client sur son prestataire, et ce qui est revendiqué par la médecine libérale, ce qui est inscrit dans la charte de la médecine libérale, le paiement à l'acte, apparaît comme un gage de qualité, d'attention, d'écoute, voire de dépendance du médecin vis-à-vis du patient. Mais cela a aussi des contreparties en termes de prescription, de consommation de soins, parce que vous avez une logique inflationniste qui se cache derrière la rémunération à l'acte, puisque pour être rémunéré, le médecin a besoin de vous voir. S'il ne vous voit pas, il n'est pas rémunéré. Le médecin n'est rémunéré que si il est là pour vous voir et vous soigner. On imagine difficilement quelqu'un qui spontanément aille voir un médecin pour recevoir des conseils de santé publique, de prévention, même si la sécurité sociale cherche à l'inciter. Et vous avez la majorité des actes qui se traduit par des prescriptions parce que, entre guillemets, il ne sert à rien de venir pour juste ressortir du cabinet sans rien. Donc vous avez une pression à la prescription, une pression à la visite qui est induite par la rémunération à l'acte que l'on ne va pas trouver dans les autres systèmes de santé où vous n'avez pas ces mêmes modes de rémunération. Alors, ces propos, ils sont illustrés par des études comparatives de l'OCDE, notamment, qui montrent que nous avons plus de prescriptions de médicaments en France, que nous avons aussi plus de prescriptions d'examens, de radio, d'examens médicaux. Ils ne sont pas seulement liés au fait qu'il y a rémunération à l'acte, ils sont aussi liés au fait qu'il y a compétition entre les médecins et que chaque médecin cherche à offrir le plus de prestations possible pour éviter que le patient ne parte voir un autre. Nous avons ici une illustration du fait qu'en médecine, la compétition ne réduit pas les prix ni les coûts.
Ça ne concerne pas seulement la France. D'une manière générale, tous les systèmes de soins avec paiement à l'acte se traduisent par des dépenses de soins plus élevées.
Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Gentil. Non, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, monsieur Gentil, rien de grave. Hein. Vous nous faites juste une petite pielonéfrite. Hein.
Pardon ?
Non, écoutez, c'est juste un dysfonctionnement sinusal des artères aortiques qui provoque une légère hémosensibilisation valvulaire des canaux sphénoïdes. Hein.
Les médecins font de leur mieux, évidemment, pour soigner correctement tous leurs patients et prescrire avec mesure. Mais cette inflation des coûts avec le paiement à l'acte, c'est une tendance constatée par toutes les études économiques. Tendance qui s'explique par cette pression à la prescription et pression à la visite. Et aussi par le manque de suivi d'un dossier d'un médecin à l'autre. Par exemple, il arrive qu'on change de médecin traitant. Or, le nouveau médecin n'a pas accès à l'ancien dossier. Il est donc obligé de refaire des examens, des tests, etc. On a ici une redondance des actes de soins, ce qui contribue à augmenter inutilement les dépenses de santé.
Tous ces coûts-là sont évités avec un système national de santé. Car la rémunération du médecin ne dépend pas du nombre de visites de son patient. Il peut donc faire plus de prévention.
Prévention qui est encouragée par le système à l'aide du salaire versé aux médecins salariés. Par exemple, en Grande-Bretagne, la rémunération dépend du nombre de patients que vous avez. On appelle ça la rémunération à la capitation.
Capitation comme nombre de têtes que vous suivez.
Mais vous gagnez des primes si vous faites de la prévention. Par exemple, si vous faites un dépistage du diabète ou du cancer du sein, si vous faites des examens sur le cholestérol ou si vous contribuez à l'arrêt du tabagisme chez vos patients et patientes, eh bien vous avez un meilleur salaire.
On économise donc de nombreuses dépenses car on évite des maladies futures qui s'avèrent très coûteuses en termes de soins.
Et ces économies permettent de financer sans problème la hausse initiale des salaires des médecins. C'est de cette manière que le système britannique dépense moins d'argent en misant tout sur la prévention et en payant mieux ses médecins. Car contrairement à ce qu'on peut croire, les médecins britanniques sont bien mieux rémunérés que nos médecins français, comme le rappelle Bruno Palier.
On a pu montrer, les chiffres de l'OCDE le montrent, que les médecins généralistes britanniques gagnent quasiment deux fois plus en moyenne que les médecins généralistes français. On voit là une aberration du système français où les médecins libéraux pensent que si le mode de rémunération évoluait vers une autre forme que celui de l'acte, ils perdraient de l'argent, alors que s'ils se comparaient au système britannique, ils réaliseraient que, en fait, grâce à la capitation et grâce à l'investissement que le système public est prêt à faire dans la médecine, ils gagneraient en moyenne beaucoup plus d'argent. Le problème, c'est ce « en moyenne ». Derrière les « en moyenne » se cachent des disparités de revenus en France qui sont extrêmement élevées, puisque vous avez d'un côté des médecins qui arrivent à faire du dépassement d'honoraires et d'autres qui respectent les tarifs de la sécurité sociale, ce qui vous donne des écarts de rémunération qui sont extrêmement élevés, pouvant s'élever parfois, pour certaines spécialités, de 1 à 10 fois un revenu supérieur.
Juste quelques chiffres. Selon l'adresse, la Direction de la Recherche des Études, des Évaluations et des Statistiques, les revenus annuels moyens des médecins généralistes français étaient de 71 300 euros, soit presque 6 000 euros par mois. C'est déjà beaucoup, notamment si on compare aux revenus moyens des Français. Mais c'est deux fois inférieur à un médecin généraliste anglais qui gagne en moyenne 140 000 euros par an. Pour gagner plus, les médecins français sont obligés d'allonger leurs horaires de travail ou de demander la possibilité de faire des dépassements d'honoraires. Pour ceux et celles qui le peuvent, notamment en spécialité.
Ce qui pose un problème pour l'accès aux soins.
Vous le savez, les médecins, un certain nombre de médecins en tout cas, peuvent pratiquer du dépassement d'honoraires. Et ce dépassement d'honoraires est plus ou moins bien couvert par les mutuelles. Évidemment, l'accès aux médecins qui font du dépassement d'honoraires n'est pas du tout garanti par le système social pour les personnes les plus pauvres ou les personnes qui n'ont pas de bonne mutuelle, toujours entre guillemets.
Mais écoutez, qu'est-ce que le patient attend aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il attend bien évidemment qu'on soit à l'écoute de ses problèmes et surtout une meilleure prestation des soins, même à un prix un petit peu plus élevé. Je crois que pour la santé, on ne compte pas. Et je tenais aussi à dire que le médecin doit être un petit peu le papa de ses clients, de ses patients.
Le bilan des systèmes d'assurance maladie n'est pas très flatteur pour l'instant. On a une inflation des dépenses avec le paiement à l'acte, un accès aux soins qui est parfois compliqué pour les plus pauvres, et des médecins qui sont moins bien rémunérés.
Ce qui est important de comprendre sur cette question des rémunérations, c'est que sur les 25 euros de consultation, il y a beaucoup de frais à payer en libéral. C'est ce que m'a expliqué une jeune médecin, Pénélope. Elle est jeune diplômée, elle fait des remplacements à Rouen et elle recherche actuellement un cabinet pour s'installer à Marseille. Donc elle se renseigne sur les conditions professionnelles et je l'ai appelée pour en parler avec elle. Elle ne se fait aucune illusion sur la rémunération nette une fois déduits tous les frais.
C'est que globalement, de nos consultations, à la fin de la journée, si t'enlèves, sur notre salaire brut, enfin brut quoi, donc juste nos consultations, si t'enlèves à peu près tout, ça te fait la moitié. En fait, si tu enlèves toutes les cotisations, si tu enlèves les cotisations de l'URSSAF, les cotisations de gestion du cabinet, t'en as pour la moitié. Ça te fait la moitié, en fait. Sur une consultation, t'as la moitié qui va dans la poche du médecin généraliste globalement.
Sans compter tout le travail à faire pour gérer son cabinet, faire la comptabilité, remplir tous les dossiers administratifs.
En fait, parce que tu as les tâches administratives et en médecine générale, tu gères aussi beaucoup de choses qui sont pas forcément administratives, mais par exemple, regarder les prises de sang de tes patients, faire des ordonnances. Tu vois, quand les gens, ils appellent souvent pour demander une ordonnance, est-ce qu'on peut me faire une petite ordonnance, je sais pas moi, pour une pilule, ou tu vois, ils ont perdu des ordonnances ou des choses comme ça. Donc ça peut regarder les prises de sang, répondre aux demandes des patients. Ça peut te prendre bien une heure ou deux sur ta journée, quoi. Après faire ta comptabilité, gérer les problèmes, tout ça, moi je m'en rends pas trop bien compte sur une journée parce que je le fais souvent sur mes jours off, mais j'imagine que sur une journée ça peut, enfin la compta ça te prend déjà je pense un petit, bien une 20 minutes, une demi-heure par jour je pense, et après il faut gérer ses déclarations URSSAF, tout ça, donc oui sur une journée de 8 heures, sur une journée de 8 heures, j'imagine que ça fait, je dirais une heure et demie sur l'administratif, quoi.
Selon une étude de 4 économistes, publiée en 2012, sur les emplois du temps des médecins généralistes en France, 44% d'entre eux assurent eux-mêmes le secrétariat, 22% leur comptabilité et 14% entretiennent même les soldes de leurs locaux. Une majorité d'entre eux sous-traitent ce genre d'activité, mais ce n'est pas encore le cas de tout le monde, ce qui représente une charge dans l'activité professionnelle.
Ce sont les difficultés classiques de toute profession libérale. De l'autre côté, si on revient à notre comparaison entre les deux systèmes de soins, il doit bien y avoir quand même des défauts aux systèmes nationaux de santé.
Bien évidemment. Et ce sont les files d'attente. En Suède ou en Grande-Bretagne, par exemple, il est difficile de changer de médecin. Et si vous avez un médecin très occupé qui a beaucoup de patients, eh bien vous êtes parfois obligé d'attendre longtemps pour enfin le voir et accéder à certains soins.
On se souvient des patients anglais qui prenaient l'Eurostar au tournant des années 2000 pour venir se faire soigner en France.
Ça avait beaucoup marqué les esprits. La situation est un peu meilleure désormais, même si c'est un problème récurrent. C'est la contrepartie d'un suivi de dossiers précis qui évite les redondances et qui encourage la prévention.
Mais la prévention est tout de même encouragée en France.
Oui, bien sûr. Le ministère de la Santé fait un certain nombre de recommandations et de campagnes publicitaires pour inciter les patientes et patients à se faire dépister pour telle ou telle maladie. Mais la sécurité sociale a très peu de moyens directs pour changer ou contrôler les protocoles de soins des médecins et donc encourager cette prévention. Les dépenses de santé restent donc importantes et la sécurité sociale ne peut pas se permettre d'augmenter le tarif de la consultation. Le système libéral, auquel tiennent si fortement les médecins, se traduit au final par une rémunération qui est en moyenne inférieure par rapport à d'autres pays.
Mais dis donc un autre point sur lequel la sécurité sociale n'a pas de contrôle direct. C'est le lieu d'installation des médecins.
Oui, et ça, c'est la liberté fondamentale d'installation des médecins. Avec un tarif à l'acte qui est le même sur tout le territoire, on ne peut pas faire miroiter une meilleure rémunération pour essayer d'attirer des médecins dans les déserts médicaux.
Et ces déserts médicaux, c'est pas un problème d'insuffisance de médecins sur l'ensemble du territoire français ?
Non. La France se situe dans la moyenne en termes de nombre de médecins par habitant. C'est juste un problème de répartition de ces médecins sur notre territoire. La sécurité sociale n'a aujourd'hui pas les armes pour réguler l'installation des médecins.
Et par exemple, Pénélope, qui recherche un cabinet, elle n'est soumise à aucune restriction ou ne bénéficie d'aucune incitation pour s'installer sur le territoire.
Effectivement, sachant que Marseille présente un profil particulier. Selon un rapport 2015 du Conseil national de l'Ordre des médecins, il y a une densité médicale forte dans certains quartiers de Marseille et une densité médicale faible dans d'autres quartiers de cette ville. En tout cas, Pénélope compare toutes les options qui se présentent à elle, même pourquoi pas l'idée d'être salariée d'un groupe privé. Car ça se développe de plus en plus.
Alors, sur le papier, je trouve ça hyper intéressant, mais parce qu'on n'a rien, on n'a plus rien à gérer de nos déclarations, URSSAF, CARMF, etc. On n'a pas non plus à gérer, on a un salaire, donc pour remplir pour les impôts, ça c'est beaucoup plus facile. Mais c'est un peu moins intéressant financièrement parce que on paye des intermédiaires qu'on ne paye pas dans un cabinet de groupe ou un cabinet seul, quoi. Voilà, pour la gestion du cabinet. Donc, en fait, ça dépend. Il y a des groupes comme ça de cabinets où visiblement ça peut être intéressant. D'autres où il y en a qui font un petit peu une belle marge sur notre profession et nous utilisent un peu comme un produit commercial. Donc, ça dépend. À Marseille, là, je vais rencontrer un cabinet sous forme de salariat et d'autres cabinets de groupe. Je vais voir. Et après, ce sera en fonction des opportunités. Je vais vraiment commencer par du remplacement, puis m'installer dès qu'il y a un cabinet dans lequel je me sens bien, avec des confrères avec qui ça se passe bien. Pourquoi pas? Mais en tout cas, maintenant, il y a de moins en moins d'installations en cabinet seul, chez les jeunes.
Comme le tarif de la consultation reste le même pour tout le monde, même si l'organisation du cabinet avec salariés peut être efficace pour économiser certains coûts, de secrétariat, de comptabilité, etc., la rémunération reste plafonnée, qu'on soit salarié ou libéral.
Exactement. Les nouvelles générations de médecins semblent plus ouvertes à l'idée d'être salarié, mais comme ce n'est pas plus intéressant financièrement, ça reste marginal.
Et sinon, tout le reste des autres médecins généralistes, globalement, s'installent en médecine libérale. Moi, j'aime bien la médecine libérale pour le côté indépendant. On fait les horaires qu'on veut, le nombre de jours qu'on veut par semaine, on prend les vacances comme on veut, enfin, on est assez libre. Et d'un point de vue organisation, et d'un autre côté, moi ce que j'attends dans la médecine générale, c'est la proximité avec les patients. Voilà, c'est un suivi, on est des médecins de famille, c'est un suivi sur le long terme avec des gens qu'on suit pendant toute une partie de leur vie et de notre vie. Et du coup, d'un point de vue humain et médical, c'est hyper intéressant. En tout cas, c'est ce que je recherche le plus dans la médecine générale, quoi. Et donc l'installation en libéral.
Avant de lancer le générique de fin, j'ai une petite annonce à faire. Je vais me mettre en retrait de Splash pendant quelques temps parce que je me lance dans une nouvelle aventure, celle de la politique à Marseille pour les municipales de mars 2020. Alors pour information, j'ai rejoint la liste écologique et citoyenne qui rassemble tous les écolos de Marseille pour essayer de changer le visage de cette ville qui a besoin d'air. En tout cas, on va essayer de faire de notre mieux. Et ça va me prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et je peux pas mener de front le boulot, le podcast et la campagne municipale. Donc Laurine, je te laisse les clés de la boîte. Bon, je reste quand même dans l'équipe de Splash, mais je ne serai plus en charge des enquêtes et des interviews. Tu prends vraiment les rênes de ce podcast. Et ce sera l'occasion pour toi de changer un peu le format de Splash. Je n'en dis pas plus, je sais que tu nous réserves quelques surprises, et j'ai très hâte d'écouter tout ça.
Alors rendez-vous, quant à nous, au prochain épisode de Splash pour jeter un pavé dans la mare. Rien de mieux pour se muscler les idées.
Splash est une émission de moi, Étienne Tabagne.
Co-animée et co-écrite avec moi, Lorraine Melka.
Produite par Nouvelles Écoutes. Réalisée par Aurore Meyer-Mailleux. Montée et coordonnée par Marine Rowe. Mixée par Laurie Galligani.
Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes, en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, et sur Instagram sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas vous aussi à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast. Et nous prenons toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite !